Astral, un balado qui vous invite à vivre au rythme des saisons, des étoiles et de l'inspiration du moment. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace où cohabitent astrologie, spiritualité, actualité et autres folies passagères. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Astral. Aujourd'hui, nous allons parler des grandes lignes de l'astrologie de novembre, de la nouvelle lune en scorpion du 13 novembre, de la pleine lune en gémeaux du 27, mais aussi faire un retour sur la saison des éclipses qui a été sans contredit au point de vue international, explosive, bouleversante, horrifiante. On a vu tous les événements chocs qui se sont produits au Moyen-Orient, en premier lieu à Israël et en contre-coup dans la bande de Gaza, et qui malheureusement se poursuivent au moment où j'enregistre et qui risquent même de déborder dans les pays avoisinants. On souhaite que non, mais c'est très complexe. Et évidemment, je vous le dis d'emblée, mon intention n'est pas du tout d'entrer dans un discours politique. Qui suis-je pour commenter cette situation-là qui est si complexe, comme je le disais? Je ne suis pas une spécialiste du Moyen-Orient, pas du tout. Mais puisque c'est le rôle de l'astrologue d'observer ce qui se passe, de faire des liens entre ce qui se passe ici-bas et là-haut, je vais donc revenir sur ces tristes événements. Donc, on va revenir sur la saison des éclipses d'un point de vue collectif, mais on va y revenir aussi du point de vue individuel de l'impact des éclipses après coup. Je vais aussi faire le tour de deux chartes de personnalités connues, soit pour la saison du scorpion Charles Manson, gourou et grand criminel machiavélique des années 60, malheureusement une icône pour certains, donc un peu dans l'esprit du scorpion des fois et des sujets un peu sombres et tabous, on va aller parler de Charles Manson. Et puisqu'on va passer en Sagittaire à la fin novembre, l'autre personnalité connue, un de mes préfs, Bruce Lee, artiste des arts martiaux, professeur, écrivain, acteur, réalisateur, producteur. Sky's the limit quand on parle de Sagittaire, tu sais. Ensuite, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées via Instagram et on va finir avec une petite chronique inspirée de la saison du scorpion, plus dans la tradition de l'heure du conte que dans l'esprit d'un éditorial, avec une histoire de rituel avec une de mes premières amies witch à vie. Alors, je vous raconte tout à l'heure. D'ailleurs, je viens de sortir un épisode hors série qui s'appelle « Sorcières et sorcellerie » en l'honneur de Samhain, où je vous parle de l'archétype de la sorcière à travers le temps, avec une petite portion pratique, rituel et sortilège. Alors, je vous invite à aller écouter ça si ce n'est pas déjà fait. J'avais aussi fait l'année dernière un épisode hors série, où je relatais mes expériences dans le monde du paranormal, des esprits, Ouija et compagnie, tout ça. Lui s'appelle « Hors-série, mes histoires surnaturelles » qui était sorti en octobre 2022. Vous pouvez toujours trouver ça sur les plateformes d'écoute. Si vous avez envie de baigner encore un peu dans cette énergie-là, hein, ça reste que l'Halloween est passé, tout ça. Mais quand on rentre dans la saison du scorpion, on rentre dans le mois de novembre, qu'on appelle aussi le mois des morts. Le premier, nous avons la Toussaint, qui est comme la célébration par l'Église catholique de tous les saints. Et ensuite, nous avons le 2 novembre, la fête des morts, très célèbre au Mexique, Dia de Muertos. Anciennement, pour la fête des morts, les gens visitaient un cimetière, rendaient visite aux proches décédés. Du côté catholique, le prêtre venait bénir des fois différentes sections d'un cimetière ou des choses comme ça. On peut voir comment ces événements-là, ces célébrations-là, représentent très bien justement un signe associé, entre autres, à la mort. Mais qui dit mort dit vie aussi. Alors, c'est toute l'idée chez Scorpion de la vie, de la mort, de la renaissance, de la transformation, du compostage et des cycles de la vie, autrement dit. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout le mois de novembre. Pour eux, c'est vraiment un mois gris et morne. Et c'est vrai, on le voit, on regarde la nature. C'est la même chose, hein? On a l'impression que la nature a perdu toute la vie qu'il habitait. Les feuilles sont pratiquement toutes tombées des arbres. S'ils ne sont pas encore, c'est très proche. On peut le voir vraiment, cette transformation-là de l'été qui est l'explosion de la vie à l'automne qui, oups, l'énergie redescend tranquillement pour aller se reposer complètement à partir de la saison du scorpion dans l'hémisphère nord, évidemment. Donc, ces deux épisodes qui sont encore pertinents puisqu'on est toujours dans la saison du scorpion, si le cœur vous en dit, allez-y. Mais commençons avec l'état des choses, un petit retour sur l'astro d'octobre. Comment ont été vos célébrations de Samhain, d'Halloween? J'enregistre le 23, le jour de l'arrivée du soleil en scorpion, ma saison à moi. Pour moi, c'est toujours une période importante, autant pour mes traditions personnelles, ma vie spirituelle à moi. Mais c'est un temps qui représente aussi pour moi comme peut-être une dernière effervescence avant que je rentre justement dans un mode un petit peu plus tranquille ou dans un mode un petit peu plus cocooning. Alors, c'est comme, pouf! Tu sais, il faut le dire, pour nous, païens, c'est comme notre fin d'année, tu sais. Moi, mon année termine le 31 d'une certaine façon, là, dans comment je me sens. Depuis vraiment le début de ma vingtaine, je n'ai pas manqué une seule année où est-ce que je ne célèbre pas, à travers un rituel, ce passage-là du temps. C'est super important pour moi. Je l'ai pratiquement toujours fait seule. Des fois, je le fais avec une ou deux amies, mais c'est quelque chose de très personnel pour moi de clore cette année-là. Alors, que ce soit quelque chose que vous célébrez ou pas, auquel vous donnez de l'importance ou pas, ça reste quand même une transition importante et on le sent juste par la diminution de la lumière. Et voilà, tu sais, tout le monde doit faire une forme d'adaptation et peut-être laisser aller certaines choses à ce temps-ci. Alors, j'espère pour vous que ça se passe bien. Et si on revient sur l'astrologie d'octobre, la saison des éclipses, que dire? Quand j'ai enregistré l'épisode d'octobre, il n'y a rien qui laissait présager ce qui allait se produire au Moyen-Orient. Si vous n'écoutez pas les nouvelles ou si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux ou peut-être que vous suivez pas du tout l'actualité, là, mais là, c'est certain que je vais vous parler d'actualité. Si vous n'avez pas vu des images très troublantes, je ne sais pas trop sur quelle planète vous vivez, mais ça se peut. Des fois, les plateformes qu'on utilise présentement sont faites pour ça, pour un peu nous isoler, si on le veut bien, de certaines situations dans le monde. Mais bref, c'est vraiment une tragédie, là, qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient. Et tout ça a pris forme lors de la période des éclipses. Les éclipses, il y a tout le temps des éléments de surprise, des revirements inattendus, des possibilités de choc, pour le meilleur et pour le pire. Mais évidemment, dans ce cas-ci, pour le pire, et c'est même peu dire, parce que c'est une vraie catastrophe humanitaire du côté de la bande de Gaza présentement, parce qu'après une attaque surprise, d'une violence extrême, faut le dire, là, en Israël, le 7 octobre, qui a fait plus de 1400 morts et plus de 200 otages, qui sont toujours en otage au moment où je vous parle, qui a été organisé par le Hamas, qui est un mouvement nationaliste palestinien militarisé, eh bien, l'État d'Israël a répondu avec des bombardements continus, une réponse d'une extrême violence aussi, avec plus de 5000 morts à ce jour, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants. Et en plus, le gouvernement israélien a coupé dans la bande de Gaza l'accès à l'eau, à l'électricité, au gaz, aux médicaments, à la nourriture. Autrement dit, comment mettre un peuple à genoux? C'est vraiment ça, là. Il commence à y avoir de l'aide qui rentre par l'Égypte, aidée par les Nations Unies, mais ça rentre vraiment au compte-gouttes. Alors, c'est inimaginable là, qu'est-ce qui se vit là-bas en ce moment dans la bande de Gaza. Et je vous paraphrase Amnesty International en parlant de Gaza. Voici un système institutionnalisé d'oppression et de domination imposé aux Palestiniens et Palestiniennes partout où Israël exerce un contrôle sur leurs droits. Ce système est fondé sur la fragmentation et la ségrégation des citoyens des territoires occupés et des réfugiés palestiniens privés d'un droit de retour. Les actes inhumains perpétrés dans ce contexte, on parle de saisies massives de terres et de biens, d'homicides illégaux, de blessures graves, de transferts forcés, restrictions de liberté, privation du droit à la nationalité, constituent un crime d'apartheid, un crime contre l'humanité. quand on entend le mot apartheid, on pense souvent à l'Afrique du Sud, on pense à Nelson Mandela, on pense justement à cette partie du monde qui a été colonisée aussi à une certaine époque et grâce, entre autres, à Nelson Mandela, a connu une libération. Mais ici, quand on parle de la bande de Gaza et des Palestiniens, ben ils sont, eux, en 2023, dans un état d'apartheid. Et qu'est-ce que je viens de vous nommer d'Amnesty International? Ça datait de 2022, donc imaginez maintenant là, la situation. N'importe qui a des yeux pour voir, voit bien que la réponse est disproportionnée, sans retenue et sans fin en vue. L'État d'Israël, dans sa souffrance, inflige encore plus de souffrance. Œil pour œil, nous rendre tous aveugles, disait Gandhi. Et c'est tellement vrai. Quand est-ce qu'on arrête tout ça? Quand on va être tous aveugles? Les observateurs parlent maintenant de crimes de guerre. Et en contrepartie, le Hamas est aussi responsable des attaques barbares qui ont lieu dans l'État israélien. Et le Hamas n'est pas élu par le peuple non plus. Donc, c'est très, très complexe comme situation et ça remonte à la création d'Israël après la Deuxième Guerre mondiale en 1948. Mais ce qui est certain, c'est que la souffrance engendre la violence et que la violence engendre la souffrance. Et que c'est un cercle vicieux et ce cercle vicieux-là existe depuis tellement longtemps dans cette région-là du monde. Et ici, je fais attention aux mots que je choisis. Parce que dans toute situation politique, idéologique, il faut absolument faire la différence entre un gouvernement ou un groupe militarisé et les populations qui occupent le territoire, puis qui bien souvent, là, ils veulent rien savoir de la guerre. Là. Ils veulent juste vivre tranquille et offrir un meilleur avenir à leurs enfants. Dans mes commentaires, je ne vais jamais opposer un peuple à un autre. L'idée ici, c'est de ne pas enflammer encore plus une situation. C'est super important de comprendre que opposer un peuple à un autre, c'est les gouvernements qui font ça, là, ou des pouvoirs en place qui font ça. Puis honnêtement, là, on oublie l'islam, le judaïsme, le christianisme. Là. Elle est où, notre humanité? C'est vraiment ça la question. Là. Pour revenir à l'astrologie, j'ai réécouté l'épisode d'octobre où j'utilisais des mots comme tension, esprit combatif, combat, pouvoir, contrôle. Avec le nœud nord en bélier gouverné par Mars et le nœud sud en balance, la diplomatie, la coopération. C'est sûr que là, l'énergie dans le nœud nord, c'est sûr que l'énergie est beaucoup plus combative, justement, et beaucoup plus confrontant. Alors, dans ce sens-là, et tout ça s'est passé autour des éclipses, c'est sûr là, que c'est un thème qui va rester avec nous pour les prochaines séries d'éclipses, au printemps prochain, puis ensuite à l'automne suivant. Ça ne veut pas dire qu'on va être dans cette intensité-là pendant toute cette période-là, peut-être que oui aussi, peut-être que ça va déborder sur les pays voisins. C'est complexe, là. En plus, il y a des superpuissances derrière ça. En plus, on a le conflit qui est vraiment pas terminé entre l'Ukraine et la Russie. Là, on a un monde qui se fractionne de plus en plus. J'en parle souvent de tout ça, là. Donc, ayons une pensée pour la justice et la paix dans le monde. Pour toutes les victimes qui ont péri ou qui périssent et souffrent de cette horrible tragédie. Donc, je vous invite à un petit moment de silence. Comme je disais, moi, je peux juste apporter mon œil d'astrologue sur cette situation-là et vous encourager à réfléchir et essayer d'ajouter de la perspective, de comprendre les enjeux, mais d'un point de vue humain, là. En tout cas, moi, c'est mon approche personnelle, je peux pas faire autrement, là. Mais c'est intéressant de voir de point de vue astrologique qu'en 1993, il y avait eu une poignée de mains historiques entre le premier ministre israélien à l'époque et le leader palestinien aussi. Ça avait été organisé par le président américain Bill Clinton. On avait vraiment essayé de mettre de l'avant une entente de paix, de réconciliation. On est 30 ans plus tard, puis clairement, hein, ça n'a pas fonctionné du tout, même que ça s'est envenimé. C'est certain que l'actuel président d'Israël, Netanyahou, il était déjà extrêmement contesté même avant l'attaque du Hamas. Ça faisait des mois que les Israéliens manifestaient dans les rues contre lui, puis certaines lois qu'il voulait faire passer qui étaient vraiment de plus en plus antidémocratiques. D'ailleurs, lui, il a le soleil en balance et son soleil s'est fait éclipser pendant l'éclipse en balance du mois d'octobre. Alors, je ne sais pas pour combien de temps qu'il est là. C'est certain que par démocratie, ils vont le mettre dehors d'une façon ou d'une autre. Le plus tôt, le meilleur, tant qu'à moi, mais bon. Encore là, ça, c'est une opinion personnelle. Mais c'est important de voir qu'en 93, il y avait eu un effort et que là, on est 30 ans plus tard, on est dans le retour de Saturne de ça. Et soit dit en passant, les années 90, il y avait une signature dans le ciel qui est vraiment emblématique de cette époque-là. C'était Neptune et Uranus qui étaient en Capricorne. Et c'est bien, bien, bien différent d'avoir Neptune et Uranus en Capricorne que d'avoir Pluton en Capricorne où il est présentement. À cette époque-là, dans les années 90, alors que Neptune, principalement, était en Capricorne, ben on rêvait d'un monde meilleur. C'était la fin de l'Union soviétique, c'était le démantèlement du mur de Berlin qui séparait l'Allemagne d'Est en Ouest. Il y avait aussi un esprit de démilitariser, surtout du côté nucléaire, de réduire les inventaires de bombes nucléaires et compagnie. Fait que, tu sais, c'était vraiment différent. Puis là, ben on arrive justement dans la dernière étape de Pluton en Capricorne, tu sais, que c'est vraiment le pouvoir qui s'accroche, mais aussi toute la déconstruction de systèmes du passé qu'on avait mis en place, que là, qui ne fonctionne plus. C'est le retour de Pluton. Des Américains aussi sont pris là-dedans parce qu'eux autres, ils sont beaucoup liés à Israël pour plein de raisons historiques, mais aussi de défense et de positionnement géopolitique. Et c'est d'une complexité, tout ça, là. Et on est 30 ans plus tard, et là, c'est ça, il y a comme une dure réalité auquel on doit faire face. C'est vraiment ça qui arrive. Et en plus aussi, moi, je n'étais pas au courant de ça. Il y a 50 ans, 1973, il y avait eu une attaque sur Israël dans des circonstances un peu semblables avec d'autres pays qui avaient mené l'attaque. Et là, on se retrouve 50 ans plus tard avec une situation un peu semblable. Et qu'est-ce qu'il y a un cycle de 50 ans d'astrologie? Ben le retour de Chiron. Chiron, ça lui prend 50 ans pour revenir à l'endroit où il était dans une charte, dans son cycle autour du soleil. Et encore là, comme je disais, il y a toute une histoire qui se tisse autour de Chiron en bélier, étant donné que le nœud nord est là aussi. Ces deux-là, c'est entre-relié. Parce que Chiron, c'est l'histoire de nos blessures les plus profondes, mais c'est aussi l'histoire de notre guérison. Et là, on peut voir que quelque chose qui guérit pas, ben fermente. Donc, c'est sûr là, que c'est une histoire qui se tisse au travers de ce passage-là des nœuds en bélier-balance. D'un point de vue collectif, ça va continuer de faire partie de notre histoire collective pour la prochaine année et demie, c'est sûr et certain. On avait un peu le phénomène semblable aussi au début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Même chose, eux aussi vivaient leur premier retour de Saturne depuis la chute de l'Empire soviétique et la création du pays souverain de l'Ukraine. Alors, c'est ça, là, y a des réalités qui nous rattrapent dans le monde qui sont pas faciles et qu'il faut trouver une nouvelle façon de regarder ces problématiques-là et ces tragédies-là avec des yeux neufs, mais sûrs. Un problème qui est tellement ancien et qui remonte tellement à loin, c'est pour ça que c'est difficile d'en parler, mais il faut en parler, mais en même temps, comment en parler sans diviser ou sans blesser? C'est vraiment ça, la difficulté. Et voilà le problème dans lequel nous sommes, mais il faut en parler parce que sinon, on peut pas régler quelque chose qui est pas reconnu, on peut pas régler rien de ça. Alors, paix et justice et nouveau commencement, on l'espère. Espérons que Chiron nous aide à guérir nos blessures et nous aide aussi à commencer un chemin de guérison pour tous. Mais d'un point de vue personnel, c'est un cycle de 18 mois qui commence, mais ça veut dire qu'il y en a un qui se termine, celui qui était sur l'axe Scorpion-Taureau. Nous avons eu une pleine lune éclipse en Taureau à la fin du mois d'octobre. Et c'était la dernière éclipse pour le prochain presque 10 ans sur cet axe-là. Et c'est important justement de réaliser qu'avec le bélier, on est dans un effet d'initiation, de nouveau départ, justement. Et d'ailleurs, surtout sur les réseaux sociaux, quand on entend parler des éclipses, il y a toujours comme un effet, un peu de panique, mais c'est important de comprendre que les éclipses, là, c'est certain que c'était associé à des événements, à une catastrophe humaine terrible. Mais c'est important de comprendre que l'astrologie, elle n'est pas noire ou blanche ou négative, positive nécessairement, tu sais. Et c'est qu'est-ce qu'on en fait, là, quelque part. Parce qu'au point de vue personnel, l'endroit dans votre charte où est-ce qu'il y a le bélier, ou si vous avez beaucoup de planètes en bélier, ben c'est un endroit où est-ce qu'il va y avoir beaucoup de développement, où est-ce que vous allez peut-être sentir un nouveau départ, une certaine énergie comme plus « Ah, tu sais, je me sens plus forte, je vais y aller, j'entreprends des nouveaux projets. » Ça se peut que pour certaines personnes, les dernières éclipses, c'était comme « Oh mon Dieu, ben moi ça va bien mes affaires, puis je me sens quasiment mal que ça va bien parce que ça va tellement mal dans le monde. » En consultation, tu sais, j'ai eu cette conversation-là avec une demoiselle, je la salue. Puis je vois ça souvent. C'est important de le dire. Les éclipses, c'est des énergies effervescentes et ça peut être comme super ou ça peut être comme confrontant. Tu sais, ça peut faire switcher le destin dans une direction positive pour vous ou au contraire, comme vraiment venir brasser les cartes, puis là, c'est pas en votre faveur, mais comme pas du tout. Et ça, ben c'est ça, ça va dépendre de vos placements, ça va dépendre de votre historique, ça va dépendre de votre vie, ça dépend de tellement de plein de choses. Mais de façon générale, il va y avoir du développement. Où est-ce que votre bélier est placé, dans quelle maison, et où il y a la balance, dans quelle maison votre balance est placée, ça va être un endroit où il va y avoir des ajustements, probablement d'ordre relationnel. Alors, ce n'est ni bon ni mauvais, mais si vous êtes trop sacrifié, trop compromis, ben là, ça va vous pousser à réajuster ça. Si vous avez été dans l'excès un peu trop égocentrique, ben ça se peut que ce soit les autres qui vous disent « Ben, garde, t'es trop pour moi, je te laisse tomber » ou « Tu penses juste à toi, ben là, tout bad. » Fait que c'est une zone d'ajustement. C'est comme ça que ça va se représenter dans nos vies personnelles. Donc, il y a le collectif et l'individuel. On peut voir comment ça se joue d'un point de vue collectif, mais après ça, dans nos vies personnelles, c'est autre chose. Et moi, en consultation, tous ceux qui ont des ascendants béliers ou beaucoup de béliers dans leur ciel, tout ça, il y a comme une poussée vers l'avant de façon générale. Ou si tu as des planètes en bélier, il va y avoir comme une poussée de ce côté-là. Puis ça peut être super enivrant, puis le fun, puis c'est une belle énergie. Mais c'est ça qui va demander des ajustements, c'est certain. Donc, rappelez-vous de ça, les éclipses, c'est surtout un début et une fin. C'est surtout des périodes de nouveau départ et de fin de cycle. Et c'est aussi la possibilité, justement, d'embarquer dans un nouveau départ. Mais des fois, si on n'est pas prêt à le faire par nous-mêmes, c'est la vie qui nous pousse à le faire. Alors là, c'est là que ça devient un petit peu plus inconfortable. Mais si vous êtes proactif dans votre vie, si vous apprenez à travailler avec ces énergies-là, si vous apprenez surtout à travailler avec le nœud nord, peu importe où est-ce qu'il est, bien, ça devient toujours un petit peu plus facile, honnêtement. Mais en même temps, je dis ça, si vous avez de la difficulté à lâcher prise sur certaines choses, si vous êtes un signe fixe, par exemple, qui aime pas que ça change trop, ça vous challenge un peu, tu sais. Donc, à réfléchir tout ça. Sur ce, nous allons regarder l'astro du mois de novembre. En novembre, nous sommes dans la saison du scorpion, dans une énergie fixe d'eau. Et à la fin du mois, nous allons passer dans la saison du Sagittaire, une énergie qui est mutable et de feu. C'est toujours une renaissance, veux, veux pas, quand on passe du Scorpion au Sagittaire, parce que si au début, le Scorpion, c'est comme « Ouh, c'est cool, c'est mystérieux, c'est comme « Ah, yeah, tu sais, c'est dark, je vais aller fouiller dans des affaires, puis tu sais, je me sens fort, blablabla. » À un moment donné, c'est comme « deep, 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 là, c'est ouf, là, la noirceur, ça va faire, j'aurai besoin d'un peu de lumière. » Fait que, tu sais, quand le Sagittaire arrive, c'est comme « Yes! » Tu sais, on remonte à la surface, ça se prend bien. Au 1er novembre, on a 5 planètes rétrogrades, soit Chiron, qui est un astéroïde, mais quand même, qui est rétrograde en bélier. On a ensuite Jupiter et Uranus rétrogrades en taureau, et Saturne et Neptune rétrogrades en poisson. Mais à la fin du mois, Saturne va être passé en mouvement direct, donc nous allons avoir que 4 planètes en mode rétrograde. Comme on le disait, le mois d'octobre, ça a été quand même une certaine intensité, que ce soit négatif ou positif, il y avait de l'action, ça c'est sûr et certain. Si vous l'avez vécu positivement, ben good for you, parce que faut pas que tout le monde aille mal en même temps, là. Ça nous prend de l'énergie positive, fait que tant mieux. Si ça a été plus dur, ben novembre va être une occasion d'adoucir tout ça, même si c'est la saison du scorpion. Les aspects dans le ciel sont quand même pas si mal. Peut-être pas dans la première semaine parce qu'on sort des éclipses, puis aussi, bon, il y a un peu de tension, mais au fur et à mesure qu'on va s'avancer, c'est quand même, il y a des beaux aspects. Mais, puisqu'il y a une nouvelle situation collective qui a été initiée en octobre avec la saison des éclipses, c'est sûr que le mois de novembre va être teint par ça. Et d'ailleurs, le scorpion, il est gouverné par Mars, Mars le guerrier, donc c'est sûr qu'on est toujours sur un pas de guerre là, au cours du mois. Mais on a aussi Vénus qui va rentrer chez elle en balance, le combat, la diplomatie ou les efforts de paix vont être quasiment sur le même pied d'égalité, alors c'est ça qui va être particulier de voir à travers le monde, les forces justement qui sont plus combatives, puis celles qui sont plus pour la paix, puis la coopération et tout ça. Ça teinte un peu déjà là, le mois de novembre. Donc, si on regarde la première semaine de novembre, du 1er au 4 novembre, c'est sûr que début de la semaine, là, on était encore en octobre avec l'Halloween, le 30, le 31, tout ça. On a le 3, le soleil en scorpion qui oppose Jupiter en taureau à 10 degrés. La même journée, on a Vénus qui est toujours en vierge qui oppose Neptune, qui est en poisson à 25 degrés. Le 4, on a Saturne qui passe direct à 0,31 minutes du poisson. Et on a aussi le 4 Mercure en scorpion qui oppose Uranus en taureau. Bon. Alors là, quand on entend ça, la bonne nouvelle, c'est que Saturne passe direct le 4. On est content de ça. Saturne qui a fait sa première entrée au printemps dernier, qui a fait son rétrograde pendant l'été et que là, il va de l'avant. Fait que c'est certain que toute cette énergie-là avec laquelle on a appris à travailler de Saturne en poisson, de garder notre calme en nos troubles, d'apprendre un peu à gérer les incertitudes, à gérer vraiment comme peut-être nos anxiétés, à gérer nos peurs, à gérer différentes choses comme ça. Bon, ben là, on connaît un petit peu plus le terrain. Fait que là, avec Saturne qui passe direct, ben ça nous permet justement de donner un peu plus forme à toutes ces choses-là qu'on a compris depuis le printemps dernier. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais pendant cette semaine-là, il y a quand même beaucoup d'opposition. Ça reste que les oppositions, c'est pas comme un carré, c'est pas aussi tendu. Ça cherche plus une résolution où ça peut pencher d'un côté ou de l'autre. Le soleil en opposition à Jupiter en taureau, c'est très fixe comme énergie, c'est dur à faire changer, mais en même temps, c'est Jupiter, donc c'est comme, ça invite un petit peu plus de bienveillance, ça nous invite à nous calmer les nerfs un petit peu, notre soleil en scorpion, justement, là, qui, des fois, qui se perd dans sa noirceur, tout ça. Jupiter en taureau, c'est comme, hey, reviens sur Terre, reste ici, c'est correct. Et ça parle encore plus du fait que Vénus qui est en vierge oppose Neptune qui est en poisson, Vénus en vierge qui est très pointilleuse peut-être, et que là, Neptune est en poisson, ah, je suis pas capable de me concentrer, puis là, faut que je fasse mes affaires, puis c'est donc ben comme, ah. Alors, c'est toute cette énergie-là, justement, un peu de terre et d'eau qui s'opposent, mais en même temps, terre et eau, c'est complémentaire. Et on rajoute Mercure en scorpion qui oppose Uranus en taureau. Comment je m'ajuste au nouveau terrain? Comment je m'ajuste face à ma charge mentale? Où est-ce que je lâche prise? Tout ça. Dans la première semaine, c'est ça, on danse beaucoup entre un et l'autre. On essaye vraiment de tirer meilleure partie de notre monde émotionnel, mais aussi du côté pratique de la vie, puis de trouver un équilibre là-dedans. Fait que c'est une signature, je vous dirais, pour la première semaine. Mais Saturne qui passe direct le 4, ça se prend bien. C'est certain que il est tellement lent, Saturne, ça va prendre du temps là, avant qu'il prenne de la vitesse. Donc, la période autour du 4, c'est certain que là, Saturne en poisson, on le sent plus. Fait que ça se pourrait que certains aient un peu plus d'insécurité ou des choses qui reviennent un peu du printemps passé, que là, c'est comme, oh, tu sais, là, ça me ramène un peu dans ce bain-là, mais je veux aller de l'avant, mais inquiétez-vous pas, vous allez aller de l'avant, c'est sûr. La deuxième semaine du 5 au 11... C'est le dernier quart de lune en Lion parce qu'on se prépare à avoir une nouvelle lune le 13 qui va être la semaine suivante. Dans cette deuxième semaine-là, on a Vénus en Vierge qui fait un aspect positif, un trigone à Pluton en Capricorne. On a aussi Mercure qui est en Scorpion qui fait aussi un trigone à Neptune en Poissons. On est vraiment dans les derniers degrés là, pour Vénus comme pour Mercure. Le 8, Vénus entre chez elle en balance. Yes, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, là, ça va faire un boom, c'est sûr que ça va se prendre. Surtout si la situation continue d'être explosive et difficile et déchirante, ça va vraiment faire du bien. Le même jour, le 8, on a Mercure en Scorpion qui va faire un aspect positif à Pluton. Qui est en Capricorne dans les derniers degrés, et le 10, Mercure en Sagittaire. Yes, lui aussi, là, on voit là, Vénus et Mercure, ils suivent, là, t'sais, ils vont quand même à une vitesse qui se ressemble. Soit dit en passant, les deux ont terminé leur rétrograde dans les derniers mois, et du moment que les planètes personnelles passent en mode direct, quand je parle de planètes personnelles, Mercure, Vénus, Mars, ils sont très rapides. Ça va vite, là. T'sais, ils passent dans un signe, bouf! Si vous avez l'impression que le mois d'octobre va passer vite, ben vous allez avoir aussi l'impression que le mois de novembre va passer vite. Parce que quand les planètes personnelles vont vite, ben les événements semblent se bousculer et ça avance très vite. On peut voir que c'est une semaine où les aspects sont positifs de façon générale. C'est la suite, dans le fond, de l'énergie du 1er au 4, qui était peut-être plus difficile à ce moment-là, mais que là, c'est peut-être plus facile d'amener de la douceur, d'amener des perspectives avec Mercure qui rentre en Sagittaire, qui va faire des beaux aspects à Vénus qui est en balance, puis qu'elle, elle essaie justement de relier les gens plutôt que les diviser. Mais cette semaine-là, c'est vraiment une invitation à s'élever, mais aussi à préparer la nouvelle lune qui est la semaine suivante. Quand on est en lune décroissante, c'est important aussi de se reposer. Donc, reposez votre corps, mais élevez votre esprit. Je pense que ça serait une belle façon de le dire. La semaine du 12 au 18 novembre, nous avons le 13, la nouvelle lune en Scorpion à 20 degrés 44, 4h27 du matin, heure de l'Est, qui oppose Uranus. Donc, c'est certain que dans la trame de tous les événements qui se passent, ça va être un moment super important aussi. Pendant cette période-là, Mercure et Vénus avancent ensemble, alors ils vont toujours être en sextile. Le 17, on a aussi Mars qui s'approche de sa conjonction avec le Soleil. Les deux vont être en trigone à Neptune en poisson. Encore là, hein, beaucoup d'énergie d'eau, beaucoup d'énergie d'eau. Et le 18, ça sera la conjonction de Mars et du Soleil. Donc, c'est certain que c'est une semaine importante, comme je disais, dans toute l'histoire qui se déroule présentement, autant individuellement que collectivement. On remercie Mercure en Sagittaire et Vénus en Balance là, qui avancent ensemble et qui se font des aspects positifs. Même si Mercure en Sagittaire, il est en détriment, c'est pas son endroit préféré. Quand il est en Sagittaire, il est moins dans la collecte de données, mais il est beaucoup plus dans les grandes idées. Puis des fois, Mercure, ben là, c'est ça, le se perdre dans les grandes idées, il n'aime pas toujours ça. Mais de façon générale, dans la situation actuelle, je pense que c'est quand même très positif. Ça peut amener certains débats d'idées qui peuvent être vraiment intéressants, là. Mais regardons la nouvelle lune du 13. C'est toujours un moment important. Une nouvelle lune à 20 degrés qui oppose Uranus en Taureau à 21 degrés. Gouverné par Mars, le guerrier, qui est lui-même en Scorpion, il est chez lui, il est à 2 degrés dans le fond de cette nouvelle lune-là. Alors, encore là, c'est très combatif, mais tu sais, c'est Mars en Scorpion, c'est autre chose, c'est une autre énergie, c'est très persévérant, très endurant. Alors, tout notre beau trio, Soleil, Lune, Mars en Scorpion, sont en trigone aussi à Neptune. Donc, c'est vraiment intéressant, justement, après un an et demi d'éclipse sur cet axe-là. C'est la première lunaison, dans le fond, qui n'est pas une éclipse. C'est sûr qu'en opposition à Uranus, ça nous demande d'être, justement, courageux, persévérant, endurant, devant toute l'instabilité de notre monde. Ça nous demande aussi de faire preuve d'adaptation. Ça nous demande de connecter avec notre force interne, show up quelque part, tu sais, puis peut-être de show up différemment, d'avoir une nouvelle approche. On est dans l'énergie qui est très fixe, Scorpion, Taureau. Mais là, c'est une nouvelle lune et Mars est là. Alors, il y a vraiment un encouragement à dire, hey, laisse-toi pas abattre, continue. Puis fais changement si nécessaire. C'est sûr que pendant cette lunaison-là, Mercure va être en carré à Saturne. Il peut y avoir quelque chose d'un peu dogmatique à l'intérieur de ça. Alors, de par la position d'Uranus, gardez l'esprit ouvert. Faites attention à ne pas vous isoler dans vos systèmes de croyances ou à devenir trop rigide dans vos systèmes de croyances. C'est vraiment une invitation à se renforcer de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, une lunaison vraiment intéressante. C'est sûr que pour une nouvelle lune opposée à Uranus, il y a une certaine instabilité dans l'air. Je parle plus au niveau collectif, mais individuellement, je pense que vous pouvez vraiment profiter de cette énergie-là. On en profite pour rétablir peut-être une meilleure connexion avec notre monde intérieur, avec nos parts d'ombre, d'avoir un peu plus de courage devant justement peut-être les parties de soi qu'on aime moins ou qui sont plus tabous ou qu'on voudrait cacher. C'est ce courage-là de la vulnérabilité, de prendre qu'est-ce qu'on considère comme des faiblesses et d'en faire des forces, mais on l'espère, une force tranquille. Ça reste Mars en Scorpion, fait que ça peut être très combatif, mais c'est quand même de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Et comme on disait quelques jours plus tard, ben Mars fait sa conjonction au Soleil. Mars a un cycle de un petit peu plus de 2 ans autour du Soleil. Et la dernière fois qu'il avait fait sa conjonction avec le Soleil, c'était dans le signe de la Balance en octobre 2021. Maintenant, il le fait dans le signe du Scorpion. Mars est chez lui, alors c'est sûr que ça donne une certaine saveur à son prochain cycle de 2 ans, où est-ce qu'il se sent très fort et il se sent capable de grandes choses et d'éveiller à l'intérieur de lui justement des forces insoupçonnées. Alors ça va être intéressant de voir comment va se dérouler ce prochain cycle de Mars avec le Soleil. Ensuite, nous avons la semaine du 19 au 25 novembre. On va être dans le premier quart de lune en Verseau parce qu'on vient d'avoir la nouvelle lune en Scorpion. Donc, le prochain quart de lune, il se trouve à être en Verseau à 27 degrés. Ça va être pour le 20 novembre. Le 20-21, on a aussi Soleil et Mars qui sont toujours en conjonction, qui vont faire un sextile, un aspect positif à Pluton qui est dans les derniers degrés du Capricorne. Allô, Linou! Tu viens d'arriver? Beau chien! Ensuite, le 22, le Soleil entre en Sagittaire. Da-da-da-da! La renaissance, la lumière, yes! On a traversé nos mondes intérieurs et là, on revient à la surface, on sort de notre grotte. Ce qui va nous amener d'ailleurs à la période des fêtes tranquillement. Mais l'entrée du Soleil en Sagittaire est un peu touchée parce que le lendemain, le Soleil, maintenant en Sagittaire, va faire un carré à Saturne en Poisson et Mars aussi va faire son entrée en Sagittaire. Soleil en Sagittaire et maintenant Mars en Sagittaire, les deux en carré à Saturne en Poisson. Donc, qu'est-ce que je parlais tout à l'heure, là, les quelques semaines avant, où est-ce qu'on se sent renforcé de l'intérieur, mais qu'en même temps, il y avait une tension dans le ciel, où est-ce qu'il faut faire attention, mes croyances, faut pas que je sois trop dogmatique, faut que je reste ouvert. Mais là, c'est un peu la suite de ça. C'est comme si Mercure a ouvert le bal, nous a fait penser à ces choses-là, et là, le Soleil et Mars qui rentrent en Sagittaire, qui font un carré à Saturne, ça vient challenger, c'est comme mes opinions, mes croyances, ma philosophie de vie versus la tienne. Mais là, le Sagittaire, il est gouverné par Jupiter. Alors, Jupiter qui est en taureau, lui, dit calmez-vous, là. Tu sais, c'est bien beau les grandes idées, mais il faut que ça soit groundé. Fait que revenez, là. Est-ce que je suis groundé dans la réalité? Est-ce que tout ce que je ressens au niveau de mes pensées puis de mon énergie, ben c'est bien ancré? Est-ce que c'est réaliste, tout ça? Donc, ça va être des questions à se poser, là, pendant cette période-là. Et le tout nous amène à la dernière semaine du 26 au 30. Le 26, on a Mercure en Sagittaire qui fait un trigone au nœud nord en Bélier à 24 degrés. Ça va être super intéressant. C'est positif, c'est un trigone. Le 27, on a la pleine lune en Gémeaux, gouvernée par Mercure qui, lui, va être en carré à Neptune en Poisson. Bon, une autre affaire. Et le 29, on va avoir Vénus en Balance qui fait sa conjonction avec le nœud sud et qui, par conséquent, va opposer le nœud nord. Alors, c'est sûr que là, elle vient donner du poids au nœud sud. Elle vient donner un peu plus de poids à la paix, peut-être. Elle vient donner plus de poids à des dialogues. Elle vient ajouter son grain de sel pour la diplomatie. Dans tout ce qui se passe, peut-être que ça va être un point intéressant là, autour de la fin du mois de novembre. Mais regardons la pleine lune du 27. Donc, une pleine lune en Gémeaux à 4 degrés 51 à 4h16 du matin le 27 avec Mercure qui gouverne cette pleine lune-là à 24 degrés du Sagittaire. On a toujours la conjonction du Soleil et de Mars qui oppose notre lune en Gémeaux et le tout en carré à Saturne! Oh yeah! Bon, c'est une pleine lune. On atteint un moment d'apogée. C'est la lumière aussi. Ça se peut que là, on comprend des choses. On arrive à une compréhension, mais on arrive aussi à un moment de tension en même temps. Et encore là, le Sagittaire qui est gouverné par Jupiter en Taureau, c'est comme, ben, c'est bien beau toutes vos grandes histoires, là, mais c'est-tu réaliste? C'est-tu applicable? Revenez ici maintenant. Groundez-vous, s'il vous plaît. Prenez vos grandes idées, prenez vos belles philosophies puis vos grands mots puis amenez ça pour que ça fasse du sens, là. Jupiter en Taureau, on peut-tu redonner au suivant, là? Déjà que Uranus n'est pas tellement loin et Uranus en Taureau, on le sent, là, il y a tellement comme amené beaucoup d'instabilité, autant dans le monde financier, dans le monde des ressources, l'inflation, tout ça en même temps, avec la présence de Jupiter, amplifier tout ça. Alors là, en plus, c'est ça, on approche des fêtes, là, on peut-tu avoir une pensée un peu pour redonner au suivant, peut-être, quelque chose comme ça? Mais ça reste une pleine lune avec un peu de tension parce que Saturne fait un carré, il est en poisson. Heureusement, il est direct, comme je disais. Mais faites attention, soyez pas trop rigide. C'est un peu ça l'idée. Soyez pas trop rigide dans votre façon de fonctionner, dans vos visions de la vie, du monde et tout. Essayez vraiment d'être du côté du Gémeaux et de jongler. Essayons de jongler avec différentes idées, différentes opinions et différentes façons de voir la vie. Mercure est en Sagittaire, un signe qui est associé à l'exploration, à une quête de compréhension puis d'ouverture sur l'autre. Mais c'est ça, tu sais, Saturne est en poisson. Oh, les insécurités, là, je me sens, je peux-tu faire confiance, pas confiance, c'est quoi la réalité, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui l'est pas, comme, fait que c'est tout ça, là, fait que ça va être à manœuvrer. Mais c'est quand même la saison du Sagittaire, là, ça se peut qu'on soit fou raide, qu'on soit dans un effet très jupitérien, puis là, je dépense ben trop, ou j'exagère dans plein de domaines, tu sais, c'est ça, là, c'est un peu dans l'air. Alors, faites bien attention, encore là, c'est une question d'équilibre. C'est pas une mauvaise pleine lune, mais... c'est une pleine lune où est-ce qu'il faut peut-être faire preuve de sagesse un peu et d'ouverture sur l'autre et pas se perdre dans trop grand. Boundaries, hein, Saturne est là, fait qu'il est toujours question de boundaries puis pas être trop impressionnable là, durant cette saison-là qui va être super importante. En plus, Mercure qui est en Sagittaire va être en carré à Neptune. Il y a vraiment quelque chose là d'exagération et de délire un peu sur les bords, là, de se faire des scénarios puis que vraiment... c'est too much, là. Fait que, mais restons bien groundés au travers de tout ça, faisons preuve de retenue, comme je disais. Et Vénus, qui est en conjonction avec le nœud sud, qui oppose le nœud nord, c'est quand même tout ça dans une zone où est-ce que c'est en carré, hein, Pluton à Capricorne, qui est dans ses derniers degrés, qui est maintenant direct, alors il y a quand même quelque chose qui avance, mais ça va être intéressant de voir autour de cette date-là. Est-ce qu'on a un peu de douceur au travers des épreuves ou un peu de lumière? En tout cas, je nous le souhaite très fortement. Alors voilà pour l'astro du mois de novembre. Et maintenant, pour nos natifs connus. Pour le scorpion, j'ai choisi un personnage controversé en Charles Manson. Charles Manson était à la tête de la Manson Family, de la famille Manson. On est en plein dans le peace and love. On est dans les années fin 60, période 67, 68, 69. Et lui va se rendre célèbre par une série d'assassinats dans la région de Los Angeles en 69. Il va être reconnu coupable en 71 du meurtre très médiatisé de l'actrice Sharon Tate, qui était l'épouse du réalisateur Roman Polanski. Celui-là même qui a réalisé le film Rosemary's Baby, que je parlais justement dans l'épisode hors-série Sorcières et sorcellerie. Un grand impact là, à l'époque, ce film-là aussi, et des allusions à la magie noire, au satanisme, des choses comme ça. Donc, ça rajoute une signature un peu glauque là, à toute cette histoire-là. Et au moment du meurtre de Sharon Tate, ben elle était enceinte de 8 mois, alors c'est absolument horrible. Elle était en compagnie de 4 de ses amis qui ont aussi été tués. Mais qu'est-ce qui est spécial de Charles Manson, c'est que c'est pas lui qui a assassiné ces gens-là. Il le fait faire par d'autres, par des membres de sa Manson family, de sa secte, parce qu'il était devenu un gourou. Charles Manson, dans le fond, à ce moment-là, il a été condamné et est resté en prison jusqu'à la fin de sa vie. Il est décédé en 2017. Et si on regarde sa charte, il est né le 12 novembre 1934 à 16h40 à Cincinnati, Ohio. Il a toute qu'une signature en scorpion. Il a le soleil en scorpion en conjonction avec Vénus. On sait que Vénus en scorpion, c'est pas un endroit facile pour elle. Il a aussi Jupiter en scorpion et Mercure en scorpion. Donc, une signature vraiment importante. Il a la Lune en Verseau en conjonction avec le nœud nord et l'ascendant taureau. Donc, ça place toutes ses planètes en scorpion dans la maison 7, dans la maison des relations, dans la maison aussi des contrats, de qu'est-ce qui nous lie aux autres, et sa Lune dans la maison 10. Moi, je me suis intéressée beaucoup à cette histoire-là quand j'étais adolescente. J'ai lu le livre Helter Skelter, qui était vraiment comme un compte-rendu de tout ce qui s'est passé en cours, une reconstruction des événements, etc. Premièrement, là, c'était un petit bandit là, qui essayait de faire son chemin. Et lui, dans le fond, il voulait être musicien, il voulait être célèbre, il voulait être reconnu. On peut voir ça justement très fort par sa lune en Verseau, conjonction nœud nord dans sa maison 10, des grandes aspirations, carrière et compagnie. Mais il avait aussi Saturne là en Verseau. Mais n'importe quelle planète ou luminaire qui est connectée au nœud nord, ça lui donne vraiment une signature particulière. Et là, c'est la lune. Des fois, le nœud nord, ben c'est ça, il met trop d'emphase sur quelque chose. Il peut avoir un déséquilibre à ce niveau-là. C'est le génie ou la folie, là. Donc, c'est ça, un petit bandit, un petit criminel qui essayait de faire son chemin. Il voulait devenir chanteur. Il s'était fait ami avec des musiciens connus sur la scène de Los Angeles. Et il avait même amené de la musique qu'il avait composée et tout ça pour être rejeté. Et là, il l'a tellement pas pris. Essayez de rejeter ça, toi, un scorpion. C'est un scorpion qui est pas bien dans sa peau, là. Oui, oui, oui. À partir de là, il y a eu comme des délires un peu messianiques. Il a fondé cette Manson Family, sa genre de secte. Il les a convaincus, justement, qu'un changement radical allait arriver dans le monde et qu'il faudrait être au premier plan de ça et que, justement, tu sais, il faudrait peut-être qu'il y ait des martyrs, puis il y avait des gens, justement, qui s'étaient hissés dans la société qui ne méritaient pas d'être là. Alors, il avait ce discours-là et tout ça. Donc, une personnalité très troublée, qui avait des aspirations messianiques là, ou de gourou vraiment très fort. Et le côté vraiment sombre du scorpion a pris le dessus. Il a réussi à convaincre des gens de poser des gestes qui ont fait que se sont retrouvés en prison eux aussi. Et c'était des femmes surtout. Il était entouré de beaucoup, beaucoup de femmes. C'est intéressant aussi de voir que dans sa charte, Charles Manson avait Mercure stationnaire qui s'apprêtait à passer en mode direct. Et quand on a une planète stationnaire, c'est particulier. Puis lui, justement, il y avait ça un peu, là, la langue fourchue du scorpion. Là. Il y avait ce don-là, justement, de manipuler les gens. N'importe quelle planète qui est stationnaire, ça lui donne un certain pouvoir. Puis en scorpion, en conjonction avec Jupiter, il avait vraiment un pouvoir d'influence et de manipulation sur les gens. Fait que c'est comme ça qu'il a réussi à convaincre des gens de tuer pour lui, aussi horrible que ce soit. Et d'ailleurs, ça l'a mis vraiment fin à l'effervescence des années 60, où est-ce que c'était vraiment peace and love. Là, ça a été un wake-up call vraiment dur de dire comme « Oh, on peut pas être naïf, là, vraiment, tu sais, il y a du monde qui sont pas du tout peace and love, puis au contraire, tu sais. » Donc, un exemple qui personnifie le pire qu'on peut trouver chez un scorpion. Même s'il y avait l'ascendant taureau, hein, il devait être quand même séducteur. Il pouvait avoir l'air d'un petit agneau, mais derrière ça, il y avait vraiment un petit diable, ça c'est sûr. Maintenant, on va sortir un peu des ténèbres et on va aller dans la lumière avec l'exemple de Bruce Lee, notre Sagittaire. Bruce Lee, qui est né le 27 novembre 1940 à 7h12 à San Francisco. Soleil en Sagittaire, ascendant Sagittaire. Encore un bel exemple avec le soleil en Sagittaire et l'ascendant Sagittaire. La personne qui incarne une énergie, mais qu'en même temps qu'il y a des notions particulières à apprendre avec cette même énergie-là. Alors ça, c'est super intéressant. Mais lui aussi, il avait toute qu'une signature en scorpion. Sa signature en scorpion est aussi forte que sa signature en Sagittaire. Il a Vénus en scorpion, en conjonction avec Mars en scorpion, qui est en conjonction avec la Lune en scorpion. Et un petit peu plus loin, on retrouve aussi Mercure en scorpion. Toute qu'une signature. Étant ascendant Sagittaire, il est gouverné par Jupiter. Son Jupiter se retrouve en taureau. Donc, une signature qui est semblable un peu à l'époque dans laquelle on est. Donc, qui est Bruce Lee? Artiste des arts martiaux, je vous cite Wikipédia. Parallèlement à sa carrière d'acteur, Bruce Lee crée son propre art martial. Il est considéré comme le plus grand maître des arts martiaux du cinéma du 20e siècle. Il a ouvert la voie à d'autres acteurs tels que Jackie Chan, Jet Li, mais aussi des acteurs occidentaux tels que Chuck Norris, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, Wesley Snipes et plein d'autres que sûrement je ne connais pas. Donc, Bruce Lee qui a incarné comme un idéal d'homme à un certain moment, avec la perfection de son physique, mais aussi son invincibilité au combat à main nue, hein, soit dit en passant. Il est malheureusement décédé prématurément à l'âge de 32 ans, mais il va rester un maître des arts martiaux pour toujours. Et moi, il est dans mon cœur parce que j'ai une maison qui est décédée, qui était méga fan de lui. C'est ça qui est intéressant quand on regarde son soleil en Sagittaire et son ascendant, comment qui était poussé par une quête d'amener une philosophie dans sa discipline, dans ses arts martiaux. Il y avait une philosophie de vie derrière ça. C'était pas juste combattre pour combattre, c'était vraiment une idée d'être en équilibre avec son environnement et les forces qui nous entourent. Et quand on pense à toute sa signature en scorpion, ça me fait penser à une phrase célèbre qu'il a dit « Fais le vide dans ton esprit, sois sans forme, informe comme l'eau. » Si tu mets de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Tu mets de l'eau dans une bouteille, elle devient la bouteille. L'eau coule ou prend la forme qu'on lui donne. Sois comme l'eau, mon ami, sois comme l'eau. Alors, je ne sais pas à quel point il connaissait son astrologie, mais il y a comme quelque chose de très scorpion. Donc, un Sagittaire ascendant, Sagittaire qui a vraiment fait sa marque dans le monde avec sa propre école d'arts martiaux. Il a formé des gens au travers de sa vie, mais aussi, je pense que c'était surtout l'idée de partager une philosophie inspirée des arts martiaux. Je pense que c'est ça qui lui tenait le plus à cœur. Au travers de sa vie d'acteur aussi, je pense ultimement c'était son message pour lui qui était le plus important. Alors, un bel exemple de Sagittaire, même s'il est parti beaucoup trop tôt. Maintenant, nous allons passer aux questions Instagram. J'ai une question de Karine Cloutier.
Salut Mel, je me lance avec une question. Novembre égale grisaille. Dans tous ces beaux outils-là, qu'est-ce que tu suggères pour poivrier vers le bas, mettons?
Ça, c'est une grosse question, pas facile à répondre. C'est peut-être un peu inévitable qu'on surfe de la grisaille, hein, juste par la perte de luminosité. Donc, un bon remède à ça, c'est d'aller dehors aussitôt qu'il y a de la lumière. Mais comme il y en a moins de soleil à l'extérieur, ben la luminothérapie peut être intéressante. Personnellement, j'ai jamais utilisé. Je suis une grande fan de vitamine D. Dans un pays comme le Canada, c'est tellement important parce que on n'a pas autant de lumière qu'ailleurs dans le monde, là. Vitamine D, c'est sûr. Alors là, c'est très pratico-pratique. Luminothérapie, vitamine D, c'est certain. Comme je disais au début, moi, j'aime cette période-là parce que je rentre dans mon cocon, puis là, comme, oh, je m'habille chaudement, puis tu sais, comme toutes des choses que je me sens comme en mitouflée un peu, là. Moi, ça m'apporte du bonheur puis du réconfort, mais ça dépend de chacun, c'est certain. Mais c'est sûr qu'il faut rechercher la lumière, faut rechercher les activités qui nous apportent de la joie. Peut-être qu'ils vont être moins à l'extérieur, peut-être qu'ils vont être plus à l'intérieur. Mais je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner, là, à part le côté pratique de l'affaire, c'est vraiment aussi d'être dans l'acceptation des cycles et des saisons. Tu sais, plus qu'on s'adapte, plus qu'on apprivoise les saisons, plus qu'on y trouve un réconfort. C'est correct aussi de se faire ami avec la nuit. L'hiver, les ciels deviennent tellement beaux. J'adore ça, contempler le ciel et voir la beauté du ciel, prendre des marches seulement à l'extérieur, des fois de soir. C'est sûr que moi, j'ai un chien. Fait que, tu sais, je prends une marche le matin, j'ai ma dose de soleil, je prends une marche de soir, puis là, j'ai ma dose un peu de nuit et d'étoiles. Alors là, ça vient comme mettre un peu un équilibre, puis ça me permet de contempler le ciel aussi. Mais c'est le retour des bains chauds, c'est les retours du réconfort, des bonnes soupes, des boissons chaudes et tout ça. Alors, tous ces petits plaisirs simples qui vous font du bien et qui vous amènent de la douceur, moi, je pense que Faut apprendre à se donner de la douceur pendant ces périodes-là et se réchauffer avec des gens, pas s'isoler, c'est clair. Ça n'a rien d'ésotérique tout ça, mais je pense que c'est correct de se le rappeler aussi à ce temps-ci de l'année. Mais oui, vraiment, apprendre à apprivoiser la noirceur, y voir une certaine beauté, y voir justement une forme de réconfort, de s'en faire une amie de cette noirceur-là. Pourquoi pas, dans le fond? Alors, c'est mes petites suggestions. Et dernière question.
Allô, Mélanie. Moi, je me demandais, c'est quoi que tu trouves le plus significatif ou révélateur quand tu fais une lecture de transit dans une carte du ciel? Comme qu'est-ce qui est les points focaux? Qu'est-ce qui est le plus, si on veut, qu'est-ce qui en révèle le plus?
Belle question d'Alexandrine Benoît. C'est sûr que, ben c'est ça, ça dépend si tu regardes du court terme ou du long terme. Si tu regardes sur 2-3 mois, tu vas regarder beaucoup les transits des planètes personnelles, donc Mercure, Vénus, Mars, parce que c'est ça qui va affecter le plus la personne. Puis je vais regarder surtout les aspects qui sont faits au Soleil, la Lune et l'ascendant, ou vraiment tout autre placement, là, que c'est vraiment évident, là, comme si j'ai une conjonction, un carré ou une opposition. Si je regarde du long terme, ben là, c'est certain que je vais regarder... ben ça, je les regarde toujours, les profections, qui est une technique ancienne qui remonte à l'astrologie traditionnelle, qui nous donne une maison en importance par année de vie et voir qu'est-ce qui se passe avec cette maison-là, quelle planète gouverne cette maison-là, dans quel signe, comment ça nous parle justement de l'étape de vie dans laquelle la personne, elle, est. Ça va être super important, les profections. Et ensuite, si on regarde pour le long terme, ben là, c'est sûr, faut aller voir les planètes lentes. Alors, qu'est-ce que Saturne va faire dans ton année? Qu'est-ce que Jupiter va faire dans ton année? Après, on ajoute les autres planètes, évidemment, s'ils font des aspects importants. C'est sûr que il y a tellement de choses à couvrir qu'à un moment donné, moi, je m'arrête aux aspects là, vraiment qui sont les plus parlants. La conjonction, l'opposition, les carrés, là, c'est vraiment ça qu'on va regarder de plus. C'est sûr que moi, je regarde énormément les nœuds. Ça passe pas inaperçu, ça, c'est certain. Mais aussi, justement, n'importe quelle planète qui passe sur les maisons angulaires, qui sont les maisons 1, 4, 7 et 10, cet axe-là qui est vraiment super important. Alors, ça fait beaucoup de choses à regarder, mais à la longue, on devient habitué. Puis, ce qui est surtout important, c'est de faire la différence. Est-ce que je regarde le court terme et le long terme? Et c'est quoi qui ressort le plus là-dedans? Alors, ça, c'est la théorie, mais en pratique aussi, quand tu as vécu ces transits-là, parce que l'astrologie, elle est faite pour être vécue et non pas juste étudiée, qu'est-ce que ça représente pour la personne? Comment est-ce que tu le vis? Comment moi, je l'ai vécu dans ma propre vie? Et de voir les indices que ça nous donne pour aider la personne à comprendre ses cycles à elle, où est-ce qu'elle est rendue dans son développement. Voilà! Merci beaucoup pour vos questions. Encore une fois, c'est super le fun. Et c'est devenu une tradition. On reprend ça au mois prochain. Et pour la petite histoire, eh bien, pour poursuivre dans l'esprit de la saison du scorpion, The Season of the Witch, j'avais envie de vous parler d'une expérience que j'avais vécue, ça fait très longtemps. Juste pour faire une histoire rapide, je suis née dans le Bas-Saint-Laurent, j'habitais là à peu près jusqu'à l'âge de 18 ans. Ensuite, je suis déménagée au Saguenay et j'habitais là 4-5 ans. Et je suis arrivée dans la région de Montréal vers 23 ans. Et quand je suis arrivée, je me suis dit « Oh my God, voici mon opportunité de rencontrer des sorciers sorcières. Là, je suis en ville, il y a plein de monde. » Parce qu'en région, on était très isolés, que ce soit dans le Bas-Saint-Laurent ou au Saguenay, tu sais, c'est ça, si t'étais sorcier sorcière dans ce temps-là, ta pratique était vraiment solitaire, tu sais. Alors, quand je suis arrivée ici dans la région, je me suis dit « Ben là, il y a tellement de monde. » Le mélange magique... une boutique qui était très connue à l'époque, qui était super importante. Eux organisaient des rencontres, des soirées pour jaser avec un café sur ces thèmes-là. Tu pouvais rencontrer de tes semblables, c'était super le fun. Puis il y avait aussi, dans le temps, un site web avec un chat room où est-ce que tu pouvais poursuivre la conversation avec les personnes. Et je me souviens, j'avais cliqué en ligne avec une fille qui s'appelait Kim. Puis je me souviens pas de son nom de famille. Je le cherche, là. Vous pouvez même pas savoir. Ça fait... Honnêtement, je cherche son nom de famille. À chaque fois que je pense à elle, je suis comme, ah, c'est quoi son nom de famille? Parce qu'on s'est perdu de vue. Quand on s'est rencontrés, les deux, on habitait la Rive-Sud. Et à un moment donné, moi, je suis partie à Montréal. Puis elle s'est faite un amoureux. Elle est partie, je crois, en Ontario. Mais je peux dire que c'est la première personne avec qui... j'ai pratiqué la première personne avec qui j'ai fait des cercles magiques ou des cercles sacrés. Et Kim, elle était anglophone, mais parlait aussi français. On avait eu les mêmes influences. À ce moment-là, j'étais plus dans la Wicca, elle aussi. Nos pratiques étaient très semblables. On se retrouvait vraiment. Ben, c'est ça. Notre premier rituel, je crois que c'était chez elle. Elle avait une pièce. Et je me souviens, c'est la première personne que j'ai rencontrée. Elle avait plus de livres que moi sur le sujet. J'étais tellement impressionnée par sa bibliothèque. Je me rappellerai toujours. J'étais comme, wow! Et c'est ça. On avait fait un rituel. Puis on était chez elle. Fait que, tu sais, c'est elle qui menait ça. Puis c'est ça qui est particulier. Puis si je me trompe pas, Kim, c'était une vierge. Elle était tellement comme toute douce. Mais je peux vous garantir que quand elle appelait les éléments, quand elle castait The Circle, hey boy, c'était comme une autre personne, là. C'était incroyable. Et la petite anecdote que je voulais vous raconter, c'est vraiment pas grand-chose, là, mais moi, ça m'avait marqué. Elle était là en train de faire ses invocations, justement, pour bâtir le cercle. Puis moi, j'avais les yeux fermés, puis je l'écoutais. Puis là, j'étais comme, dans mon ressenti, je sentais comme si... il y avait du feu autour de nous. Tu sais, évidemment, il n'y avait pas de feu, là. Mais je parle métaphoriquement parlant, j'avais l'impression qu'on était dans un cercle de feu. Et là, à un moment donné, j'ai eu un fou rire, puis elle s'est tournée, elle m'a dit « qu'est-ce qu'il y a? » Puis là, j'ai dit « ben, t'as-tu calé du feu? Parce que là, il y a du feu. » Et là, elle se revirait de bord avec ses grands yeux bleus, puis elle m'a dit « what? You can see it! » Et j'ai dit non. Elle dit, mais tu comprends pas, je suis en train de caster le circle with the fire! Je casse le circle avec du fire et tu l'as ressenti, c'est incroyable! Et là, tu sais, fou rire, veut pas, surtout juste la façon qu'elle s'exprimait, c'était tellement drôle. Mais ça montre justement quand tu pratiques avec tes semblables, à un moment donné, il y a comme une connexion psychique qui se crée. Puis là, ben c'est ça, tu sais, sans se parler, tu commences à ressentir puis à avoir des affaires qui est dans la tête de l'autre puis dans ses intentions puis tout ça. En tout cas, c'est vraiment, vraiment particulier. Alors Kim, ça fait plus de 20 ans qu'on s'est pas vu, mais si jamais t'écoutes, je te salue et j'espère que tu vas bien, mais ça a été une personne vraiment le fun avec qui j'ai pu partager ces choses-là. Alors c'était ma courte histoire pour la saison du Scorpion. Et on va se revoir le mois prochain pour la saison du Sagittaire. Alors, gardez votre lumière. Soit dit en passant, je repense à la question de Karine tantôt, puis je me dis, maintenant qu'on rentre dans la noirceur, choisissez-vous trois mots-clés qui vont vous inspirer, vous guider et vous nourrir pendant cette période-là. Peu importe c'est quoi, là. Des mots que vous allez garder avec vous qui vont vous renforcer, un peu comme une intention qu'on fait alors. Donc, ayez cette pensée-là, quel mot je veux amener avec moi pour me soutenir dans la période un petit peu plus grise ou plus sombre qui est devant nous. Et sur ce, on se revoit le mois prochain. C'est tout pour cet épisode. Merci de votre écoute, encore une fois. Merci de commenter, de partager, ça fait toujours une différence pour la visibilité. Et n'oubliez pas, ne demandez pas ce que les planètes peuvent faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre planète.